Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque lundi. Quel plaisir, hein. Il n'a pas fait très beau, il a fait froid, mais nous on va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de gaieté au cours de ce rendez-vous du lundi que vous connaissez maintenant depuis plus de deux ans, 19h-20h30. Et justement, on va avoir ce soir notre ami François Artigas, que je salue. Bonsoir François.
Bonsoir Philippe, ouais. Bonsoir à tous.
Je suis d'autant plus ravi qu'on avait fini la saison ensemble donc le 15 juillet dernier. On avait promis donc de vous rappeler hein, pour nous parler un petit peu de vos traités olympiques et paralympiques. Promesse tenue, on aura l'occasion donc de parler de ce que vous avez vécu en tant que volontaire. Hein, ça a été très
fort.
Ouais. D'abord, ça va bien, tout va bien.
Ça va mieux, ouais. C'est vrai qu'il y a une période un peu difficile d'après JO, c'était tellement une parenthèse enchantée, une ambiance extraordinaire avec des gens courtois, aimables, bon, ce qui est un peu moins le cas maintenant, mais c'est vrai que c'était, voilà, c'était fantastique et c'est une expérience qu'on vit une seule fois dans sa vie.
Hein. Ouais. Alors, on avait eu Sarah à Arluigny hein, au mois de septembre, donc le 16 septembre pour notre émission de rentrée, qui avait été aussi, elle, volontaire, qui nous avait expliqué un petit peu son quotidien. Elle devait revenir ce soir, bon, malheureusement, elle est pas très bien, elle est souffrante actuellement, donc on va lui faire un petit coucou et puis on va la saluer bien fort et puis ça complétera, donc finalement, qui avait dit, Sarah, je veux saluer celles et ceux qui m'accompagnent tous les lundis. D'abord, Vanessa. Bonsoir, Vanessa, ça va ?
Bonsoir, Philippe, ça va très bien. Ouais. Bonsoir à tous.
Ouais. T'as passé une belle semaine ?
Une très belle semaine.
Ouais. Et tu nous parleras donc notamment...
Des prix nationaux du fair play, laquelle on était.
Ouais.
Superbe cérémonie.
C'était jeudi, hein, on y était avec également François, qui aura l'occasion donc, d'intervenir un petit peu aussi sur cette cérémonie. Et puis, je veux saluer celui qui n'a pas quitter sa télé donc ce week-end, c'est Alexandre. Bonsoir Alexandre, ça va ? Quel week-end de sport ?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Gros week-end de sport comme d'habitude, mais là particulièrement, particulièrement chargé, donc j'ai hâte de vous le raconter tout à l'heure.
Très bien. Allez, François, donc volontaire, ça a été dit, hein, ça restera une période...
Une période extraordinaire dans la mesure
on partira
où...
dans sa tombe avec ça, c'est ça un peu
oui, le plus tard possible, comme disait Thierry Roland le soir de la finale de la Coupe du Monde 98. Ouais. Bon, mais c'est une aventure qui est débutée plus d'un an avant, puisque c'est en mars 2023 que débutaient les sélections. Alors bon, il y avait trois conditions hein, quand même, il fallait avoir plus de 18 ans, parler anglais ou français, les deux, c'est encore mieux, et être disponible pendant au moins une dizaine de jours. Et il y avait eu quand même 312 000 candidatures, donc pour 45 000 heureux élus.
Oui, alors on va rappeler 30 000 pour les Olympiques et 15 000 pour les parrains. Hein.
Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que certains ont doublonné, comme Sarah. Donc en fait, au total, il devait y avoir peut-être un peu plus de 42 000 volontaires. Et bon, c'était quelque chose d'exceptionnel. Dans la mesure où, bon, les Jeux Olympiques à Paris, on ne les vivra qu'une seule fois. Hein. Ouais. Bon, sauf peut-être pour des générations futures, si Paris est à nouveau candidate.
Alors, ça s'est fait sur quels critères ?
C'est un peu le mystère. C'est-à-dire, je n'ai jamais vraiment su comment... Alors, j'ai ma petite idée.
C'est la machine qui a fait un condensé de tout.
Oui, mais bon, je pense
que... En fonction des réponses qui ont été apportées.
Voilà, je pense qu'il y avait quand même deux critères. Il y avait un critère de langue, c'est-à-dire ceux qui maîtrisaient 3-4 langues, voire plus, étaient évidemment prioritaires. Puis aussi, ceux qui avaient un passé sportif. Mmh. Passé sportif de champion... ou de dirigeants, ou même d'éducateurs,
ou qui avaient été aussi
bénévoles dans d'autres manifestations. Parce que, par exemple, à la piscine, l'aréna, la Défense où j'étais, il y avait beaucoup de la Fédération de Natation. Mmh. Parce qu'il y a des postes quand même où il faut avoir l'habitude du contact avec les nageurs, de leurs demandes, etc., pour officier dans les meilleures conditions.
Oui, parce qu'il y avait dans les choix donc, qui étaient... Donc, il fallait dire aussi les sports préférés des uns puis des autres, dans les choix demandés par les volontaires, dans le questionnaire que vous avez rempli.
Absolument. Ouais. Mais je crois que le critère le plus important, et je pense qu'il a joué en ma faveur, c'est que j'étais pas très loin du site de compétition, environ une demi-heure.
Bien sûr.
Donc,
bien
et
sûr.
Comme j'habitais sur place, il y avait moins de chances que je leur fasse défaut que peut-être que quelqu'un qui habitait à l'étranger ou qui habitait en province et qui aurait eu de difficulté à trouver un logement à Paris.
Oui, mais il y a eu des étrangers quand même, François.
Absolument.
Qui ont été parmi les volontaires.
Il y a eu 20% et de 500, 150 pays, donc c'est quand même énorme. Et parmi les plus représentés, bizarrement, il y avait la Chine.
Oui.
Donc la Chine et l'Allemagne, tout du moins, c'est ce qui était à l'Arena Paris La Défense. Arena Paris La Défense, où on était quand même, je vous donne le chiffre, près de 2000, près de 2000 volontaires pour un seul site, exactement en 1990. Ce qui est énorme. Quand ils avaient posé la question au début de la formation, tout le monde a répondu 200, 300, 500. Mais jamais quelqu'un serait risqué à dire 2000.
Oui, oui. Donc, il y avait des étrangers. Alors, je crois que c'est un algorithme, hein, c'est ça, qui a fait le tout en fonction donc, du lieu de résidence, en fonction de ses compétences hein, et de son passé, de son expérience et de ses sports préférés, de ses sports favoris. Et tout ça a fait donc un mélange et ça a donné un algorithme qui a sorti des noms. Moi, est-ce qu'il y a eu des quotas de tranches d'âge?
Je pense qu'il y a eu des quotas de tranches d'âge dans la mesure où ceux qui avaient entre 30 et 45 ans n'étaient peut-être pas systématiquement pris en compte. Il y a eu beaucoup de candidatures de cette tranche d'âge, d'après ce que j'en sais. Donc je pense que si on avait entre 30 et 45 ans, on avait moins de chances d'être sélectionné si on était peut-être plus jeune ou plus âgé comme moi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que parmi les personnes qui ont été sélectionnées, il y avait donc la proximité et puis il y avait aussi donc l'âge qui était pour moi déterminant parce qu'ils voulaient que ce soit quand même un panel très représentatif de la France. Et il faut reconnaître aussi qu'il y avait quand même 5% de volontaires qui étaient en situation de handicap.
Oui, en plus.
C'était une très bonne chose. Donc, et 1 sur 3 était issu du mouvement sportif.
D'accord.
Donc 1 sur 3 avait l'habitude de...
Bon, on connaît l'âge du plus jeune ou de la plus jeune et du plus ancien ou de la plus ancienne, non ?
Les plus jeunes, moi j'ai entendu 17 ans, alors que c'était 18 ans.
Ouais.
Mais je pense que c'était 17 ans dans la mesure où la personne aurait eu 18 ans après les Jeux dans l'année. Alors que normalement, ça aurait été au 1er janvier 2024, mais peu importe. Et la plus âgée, je crois que c'était 83 ans.
83 ans, c'est bien.
De toute façon, pour notre site, c'était 83 ans.
Alors, François, quel a été votre rôle et surtout, quels ont été les moments forts que vous avez vécu? Vous avez une chance inouïe, la Défense Arena. C'était votre premier choix? On pouvait pas refuser, apparemment.
Si, moi j'ai refusé un poste de chauffeur parce que je ne me sentais pas capable de conduire des délégations, sinon je les aurais fait arriver en retard. Donc voilà. Non, j'ai refusé chauffeur et parce que je ne me sentais pas capable toute la journée de conduire. Donc j'ai été honnête, j'aurais dit non. Et ils m'ont mis à la Défense Arena en deuxième comme équipier informatique.
D'accord.
C'est-à-dire un poste de base. Hein. Ce n'est pas un truc très prestigieux. Alors le travail, c'était le matin qu'on était posté le matin. On avait soit une session le matin, soit l'après-midi. Le matin, on vérifiait un tribune de presse. Donc le branchement de tous ce qui devait servir aux ordinateurs des journalistes, que tout soit impeccable, qu'il n'y ait pas à intervenir pendant la compétition, ce qui aurait été un peu ennuyeux et catastrophique pour certains médias. Et si on était posté l'après-midi, c'était plus la relation avec les journalistes qui sont en salle de presse, qui arrivaient en salle de presse, pour savoir s'ils avaient un problème qu'on faisait remonter au service informatique. Mais c'était aussi très basique. Hein. Moi, il m'arrivait de nettoyer dans l'aréna hein, entre deux sessions. C'est-à-dire de prendre une poubelle et de virer les gobelets qui étaient sous les sièges, des choses comme ça. Hein. Et puis aussi dans la salle de presse, de vérifier pour les téléviseurs s'ils avaient bien accès à tous les sites, parce que chaque téléviseur, on pouvait donc passer d'un site à l'autre. Et le journaliste qui a besoin de savoir ce qui se passait sur un autre site, comme ça, c'était pratique pour eux.
Oui. Mais c'était un rôle essentiel hein, tout de même, parce que de s'assurer de tout ça, de tous ces petits détails, c'est ce qui fait la réussite aussi. Et c'est indispensable pour les journalistes présents.
Absolument.
Ça contribue à la réussite. Donc vous dites que c'était pas essentiel, c'était pas forcément très prestigieux. Enfin, c'était pas très prestigieux, mais en fait, votre rôle était essentiel.
Oui, c'était essentiel parce que s'ils avaient été obligés d'être Ils ont fait des calculs par rapport au coût, s'ils étaient obligés de faire appeler donc du privé, ça leur coûtait quand même des sommes assez considérables, plusieurs dizaines de millions d'euros. Non, c'est essentiel. Et moi, j'ai aucun scrupule à faire ces petites tâches. Moi, je trouve que...
Tout le monde était là pour ça, ça a été la
Il
n'y
a pas de
saut
métier, il y a que saut de gens pour le dire. Moi, ça ne me gênait absolument pas de prêter main forte pour dégager les gobelets qu'il y avait sur les tables des journalistes en table de presse, pour nettoyer. Moi, ça ne me posait aucun problème.
Et sans aucun problème entre vous, toujours dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Ça a été le symbole de ces jeux.
C'était un peu, il y avait un mantra au départ. Ouais. C'est pour nous, à la Défense Arena, c'est ici tout baigne. Voilà. Tout baigne. Ouais. Donc il fallait que ça, voilà, qu'il n'y ait pas d'anicroche entre des volontaires. Non. Et à ma connaissance, il n'y en a pas eu parce que chacun était là pour rendre service. Oui. Ils n'étaient pas là pour se faire voir ou quoi que ce soit. C'était vraiment une démarche bénévole, une démarche dans l'esprit sportif et des Jeux Olympiques.
Et y compris avec les collègues journalistes et puis même avec le monde du sport, même les sportifs et l'environnement des sportifs.
Moi, je n'ai pas trop côtoyé les sportifs parce que c'était très hiérarchisé quand même les tâches. Moi, j'étais relations journalistes et services informatiques. Il y en avait qui étaient au protocole pour les VIP qui venaient donc assister aux compétitions. Un autre pour le protocole donc, qui était pour amener les différentes médailles pour ceux qui allaient distribuer, qui allaient les remettre. Et après, donc, il y avait ceux qui étaient chargés de l'accueil des spectateurs à l'extérieur. Donc, quand il faisait très chaud, c'était pas... obligé d'avoir leur chapeau. Entre parenthèses, moi, je trouve très saillant pour les filles. Pour les garçons, c'est un peu moins...
Il fait du tabac, ce chapeau.
Les fameuses tenues des volontaires qui ont été très prisées et qui ont même été vendues, le 12 octobre dernier, à l'hôtel de ville, à Paris, là, lors de la grande braderie des Jeux. Alors même que juste avant, pendant l'été, il y avait eu forcément l'interdiction donc de revendre ces tenues, que ça avait quand même fait le buzz. C'était assez contradictoire quand même, peut-être, c'est le fait de revendre les tenues à la fin sur cette grande braderie des Jeux, mais juste avant peut-être de les interdire. Enfin, voilà.
Moi, je n'aurais jamais vendu ma tenue. J'en ferai don au musée de la presse sportive. Parce que je ne comprends pas qu'on achète des tenues de quelque chose qu'on n'a pas fait. Moi, ça me semble un peu surprenant.
Il y a même des endroits, il paraît que certains volontaires, c'est une minorité, on fait une ou deux journées sans partir.
Oui, c'est vrai. Il y en a certains, mais c'est très minoritaire. Parce que c'était quand même un engagement.
C'était Paris 2024 qui a organisé ces braderies, pour précision, même si ça se passait à Paris.
Il faut solder les lots.
Mais bon. Donc, ces jeux, de toute façon, ont eu un gros succès et on l'a vu avec tout ce qui s'est vendu et tout le reste, bien entendu.
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils voulaient arrêter la spéculation. Parce que moi, j'avais vu passer sur Internet, pendant la période des Jeux, l'ensemble des tenues à 5000 euros. Donc, je me suis dit, faut que ça s'arrête quelque part. C'est parce que ceux qui sont étudiants et qui se disent, comme on avait deux tenues, ils pouvaient très bien en vendre une et conserver la deuxième.
Alors, du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu cette grande braderie.
Absolument.
Merci pour la réponse comme ça. Ça permet d'avoir des précisions
la spéculation.
Là-dessus. Exactement.
Mais encore une fois, moi, je ne me verrais pas prendre une tenue volontaire si je n'avais pas été volontaire avant.
Mais chacun n'a pas les mêmes valeurs, François.
C'est les valeurs du sport.
C'est incroyable de réagir comme ça. Vous avez quand même eu le temps d'apprécier les exploits sportifs et notamment de Léon Marchand.
Moi, j'ai eu une chance énorme. Ouais. C'est-à-dire que j'étais dans un service qui intervenait avant les compétitions. Et après les compétitions. Quand les journalistes étaient en poste en tribune de presse, je n'avais pas intervenir. Ou si on avait à intervenir, c'est qu'il y avait vraiment un très gros problème qu'on n'avait pas su régler en amont. Mais on n'avait pas eu une fois un cas, mais c'était vraiment marginal. Donc j'ai pu assister parce qu'on avait un endroit dédié, notre service, pour voir toutes les compétitions. Donc j'ai pu assister aux 4 victoires de Marchand. Donc c'est 4 victoires individuelles. C'est remarquable.
Et là, on se dit, je suis un privilégié.
Absolument.
C'est même mieux qu'un journaliste.
Bah, c'est mieux qu'un journaliste, parce que ce qu'il faut savoir, moi j'ai suivi des JO, ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes, qu'on a une accréditation, après, pour assister à des compétitions, il faut prendre des tickets. Bon, il faut savoir que la tribune de presse de l'Arena, c'est environ 330 places. 15 000 journalistes, vous faites le calcul. Donc tous ne peuvent pas y aller. Donc ceux qui ont pu aller à l'Arena, c'était après, en deuxième semaine, sur des compétitions moindres, comme le water polo, qui attirait beaucoup moins de monde. Mais la compétition de natation, alors que moi je l'ai vu en direct, eux, ils l'ont vu à la télévision.
Et c'était franchement incroyable, cette ambiance à l'Arena, à la Défense. Moi, j'y étais pour la paranatation. Et je crois même que pour la paranatation, ça remplit encore plus que pour la natation, des informations que j'avais eues. Et l'ambiance était exceptionnelle, le site était exceptionnel, tout était exceptionnel.
Voilà. Bah, j'avais été aussi, comme je suis intervenu que sur les Jeux Olympiques, j'avais assisté, après en payant ma place bien sûr, à la paranatation. Effectivement, il y avait une ambiance extraordinaire. Comme pour les Jeux Olympiques. Et ils avaient pu dégager 1000 places de plus, parce qu'il y avait des choses, des hospitalités qui n'avaient pas été vendues. Donc, ils les ont transformées en places pour le grand public. C'est pour ça que la natation, 15 000 spectateurs, les Jeux Olympiques, et environ 16 000 pour les Paralympiques. Donc, ils ont pu gagner des places. Et c'est remarquable, parce que moi, très franchement, avant les Jeux, je me disais qu'ils n'allaient pas remplir, vu les tarifs. Les tarifs de la natation, c'était de 341 € à 940 € pour les places les plus chères.
Oui,
sans parler de l'hospitalité.
C'est vrai qu'il y avait... Alors ça, c'était parti extrêmement vite, mais il y avait aussi eu les packages. Et moi, j'avais interviewé des supporters qui avaient pris un package et qui avaient donc été voir Léon Marchand. Et finalement, ça leur a été revenu... Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça leur a été revenu pas si cher que ça, au final. Mais c'est vrai que si on regarde quand même l'ensemble d'une grosse partie des places des Jeux Olympiques, c'était forcément un certain prix. Et c'est vrai que quand on n'est pas familiarisé avec ça pour le grand public, c'est cher forcément. Mais c'est les prix des Jeux Olympiques, parce qu'il faut aussi se dire que derrière, s'il n'y a pas de billetterie, c'est la facture, elle est pour les contribuables. Donc voilà.
Ah oui, ce point de vue-là, c'est
97%, je crois, de financement privé.
Mais je trouve que c'est trop quand même, les prix. Ça aurait dû partir à partir de 24. C'est-à-dire, ils ont eu des idées de faire 24 €. Mais ça aurait dû être, à mon point de vue, 24 €, 240 €, 480. Mais des places à près de 1 000 €, ça me paraissait quand même excessif. Sauf ceux, effectivement, qui étaient inscrits les premiers et qui avaient été tirés au sort.
Ça, c'était autre chose, oui.
François, ensuite, prolongé pour les Paralympiques, vous n'avez pas eu cette idée?
C'est-à-dire que moi, j'avais eu une chance énorme d'être sélectionné sur les Jeux Olympiques. Il y avait une possibilité, on me l'avait demandé. Je lui ai dit non, je préférais laisser la place à quelqu'un d'autre, parce que cumuler, ça voulait dire que je prends la place de quelqu'un qui aurait pu être aux Paralympiques. Mais maintenant, je peux comprendre ceux qui font les deux.
Surtout qu'on est resté sur la même ligne. Il y a eu autant d'enthousiasme pour les paras que pour les Olympiques. C'était vraiment une seule et une même équipe.
Et puis en même temps, ça m'a permis d'assister aux Jeux Paralympiques, parce que les prix étaient quand même beaucoup moins élevés. Vous pouvez y avoir des places à 50 €. Je sais, j'étais à la natation, j'y suis retourné après aux Jeux Paralympiques, mais en payant avec ma compagne. Moi, c'était un peu plus de 100 € pour deux places, pour une session du matin de paranatation.
Alors justement, ces volontaires, François, qui ont marqué les Jeux, Tony Estanguet l'a suffisamment dit et les a suffisamment remerciés, qui ont fait le succès de ces Jeux, vous voulez ne pas les oublier. Donc, il y a des petits projets.
C'est-à-dire que, effectivement... une si belle aventure, il faudrait la conserver quand même une trace. Et j'ai pensé donc faire un livre,
c'est
un grand livre des volontaires, qui sortirait donc à l'anniversaire de la cérémonie d'ouverture des JO, donc le 26 juillet 2025, et qui sera un témoignage des volontaires sur les différents sites, avec des photos fournies par les volontaires. Ce ne seraient pas des photos de presse. C'est-à-dire, les volontaires nous donneraient des photos et on ferait un grand album. Et je pense que ce serait pour eux un excellent souvenir. Et peut-être aussi que toutes l'achèteraient, hein, des personnes qui ont assisté au jeu sans être volontaires pour voir ne serait-ce que la famille des gens qu'ils ont connus qui étaient volontaires. Et aussi, bon, pourquoi pas, mais là, c'est sans doute plus compliqué à...
Et un documentaire télé.
Voilà, un documentaire télé avec des témoignages aussi de volontaires qu'on n'aurait peut-être pas vus parce qu'effectivement, pendant les Jeux, il y en a un certain nombre qu'on a plus vus que d'autres. Hein.
Je sais pas, c'est... Vous avez le droit de donner des interviews ? Pas trop ?
Ils sont, je sais que moi, à l'Arena, il y a une équipe de France 3 qui est venue faire des interviews. Mais c'est vrai qu'en principe, alors on ne devait pas faire de photos, mais on devait surtout ne pas prendre de photos de l'accréditation avec le code, parce que ça pouvait être dupliqué avec, par quelqu'un de malhonnête qui aurait reproduit une autre accréditation. Donc on avait le droit... évidemment, à condition que ça n'empiète pas sur le travail, que ce soit pas avec des champions, qu'on les laisse tranquilles, etc. Mais bon, c'est pour ça que là, soit on ne voyait pas l'accréditation, on la voyait que le parti supérieur ou qu'elle était mise de côté.
Oui. Donc, est-ce qu'il y a des réponses à vos propositions, à vos demandes qui ont été faites, je crois, un petit peu auprès des institutionnels et de certains confrères et consoeurs?
Bah, c'est-à-dire que la réponse, c'était, je l'ai envoyé à Tony Estanguet.
Oui. Il est aux Champs-Élysées hier, hein, c'est lui qui a allumé le bouton
Je l'ai fait assez récemment parce que je voulais pas l'ennuyer avant, parce que je suppose qu'après les Jeux Olympiques, il a dû avoir tellement de lettres, de félicitations, de réponses que j'ai attendu quand même 2 mois avant de... lui envoyer, comme ça c'est frais, je comprends qu'il n'ait pas encore répondu.
Et pas de réponse
pour l'instant, non. Oui.
Et quelles ont été les réponses de votre entourage?
Mes confrères
Beaucoup d'encouragement.
Absolument. Ouais. Confrères, voilà. Et j'espère que si le projet se fait, ils en parleront dans leurs médias respectifs.
Vous n'avez pas peur un peu qu'on vous pique l'idée, entre guillemets? Ça peut arriver.
Tout est possible.
Hein. Ah oui, dans le job.
Puis, je veux dire, c'est pas l'idée la plus originale du monde non plus.
Ouais, enfin, quand même.
Voilà. Non, mais l'idée. Alors, j'ai quand même une double légitimité, c'est que je suis journaliste.
Bien sûr.
J'ai déjà écrit des livres. Et puis, j'ai été volontaire.
Oui.
Donc,
bien sûr.
Si on prenait soit un journaliste qui n'a pas été volontaire, ou soit un volontaire qui n'est pas journaliste,
non, c'est très bien.
Je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, après, c'est pas moi qui décide. Hein.
Et ça vous permet d'avoir vraiment le regard de l'intérieur tout en ayant un traitement journalistique.
Voilà, donc c'est comme du journaliste qui est impliqué à l'intérieur de son sujet. Et donc, il a un regard différent, mais en même temps, plus critique. Et c'est plus intéressant que quelqu'un qui prend un regard extérieur. Moi, si un bénévole me dit certaines choses... je dirais peut-être, bon, là, je ne crois pas que ça s'est passé comme ça. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui se sont passées, qu'on a eu le droit de dire, d'autres qu'on n'avait pas le droit de dire, parce qu'il faut respecter une certaine confidentialité.
Oui. Mais... Et ça ne vous donne pas l'envie de replonger, de recontinuer Cortina d'Ampezzo ou pourquoi pas Alpes 30?
Non, je veux dire mon sentiment. Mon sentiment Alpes 30... Je ne comprends pas, parce que Alpes 30, ça veut dire quoi? Alpes 30, ça peut être les Alpes suisses. Ça peut être les Alpes autrichiennes.
Les Alpes françaises.
Ça peut être les Alpes françaises.
Ouais, ouais.
Ça peut être les Alpes italiennes.
Ouais.
Donc, Alpes 30, ce n'est pas comme Paris 2024.
Ouais.
Paris 2024, c'est bien identifié. Paris, capitale de la France.
Ou Albertville 92, quoi. Ou Albertville 92.
Et ce qui me gêne en plus, bon, j'ai beaucoup d'amitié pour Martin Fourcade. Ce qui me gêne en plus, c'est que le Premier ministre Barnier, donc à l'origine avec Killy des Jeux de 92, dès qu'il est arrivé à Matignon, a signé la lettre d'engagement des 2 milliards d'euros. Donc la France, situation économique qu'on connaît, à mon avis, il y avait une priorité, d'autres priorités, que de signer l'aide d'engagement.
Oui, je crois qu'on était pris par le temps, il fallait le faire, sinon il n'y avait pas les Jeux.
Non, mais on peut négocier.
Il n'y avait pas les Jeux, sinon.
Mais on ne peut pas négocier. Le CIO n'est pas de plan B.
Oui.
Je rappelle quand même que Los Angeles, pour avoir pour accepter les Jeux de 2028 et laisser les Jeux de 2024 à Paris, a touché 1 milliard de dollars, pas d'euros, donc ça fait un peu moins, du CIO. Donc il y avait matière à négocier, surtout dans la période actuelle, parce que le CIO n'est pas de plan B. Ils disaient, il n'y a pas 2000. Donc, ils auraient été obligés de relancer toute une machine. Ça aurait coûté de l'argent. Je pense qu'il y avait matière à négocier parce que 2 milliards, ce n'est pas rien. surtout dans la période actuelle.
Alors justement, le fameux héritage de ces Jeux dont on a beaucoup parlé, vous en pensez quoi? Il y a déjà des choses qui ont disparu, le sport à l'école déjà, au collège,
les deux heures supplémentaires. L'éducation prioritaire, et ça c'est quand même un scandale.
Ouais. D'ailleurs, il y a eu ce tweet de Léon Marchand.
Avec un clown.
Oui, voilà. C'est ça. Et puis aussi les primes olympiques qui ont été finalement imposées.
Mais moi je veux dire...
Alors qu'au départ, c'était prévu que, comme pour Tokyo, il n'y ait pas d'impôt dessus. Quoi.
Alors ça, effectivement, ça me scandalise pour les prix. Maintenant, le sport à l'école, ça me fait bien rire, parce que depuis 1966, vous vous rendez compte, 1966, il y avait une expérience à Vanves. Sport à l'école à Vanves, tiers-temps pédagogique. C'est-à-dire, il y avait les enfants allaient à l'école le matin... Donc, apprendre les matières mathématiques français. Et l'après-midi, c'était uniquement du sport. Bon, qu'est-ce que c'est devenu 60 ans plus tard, même plus de 60 ans plus tard, il n'y a rien. Il n'y a rien de fait.
Parce que
mais ça, ce n'est pas un héritage des œufs. Ouais. Non, pour moi, l'héritage des œufs, c'est de faire participer des enfants via des installations qui auront été récupérées, qui pourront être utilisées dans d'autres communes, qui n'avaient pas ces installations, etc. Donc je pense, je ne vais pas être trop critique quand même, parce que lorsque l'on sait ce qu'ont donné les Jeux précédents dans d'autres capitales, je pense que si l'héritage
matériel,
donc ils arrivent à faire en sorte qu'ils revendent des sièges de...
C'était le cas, là. Il y a beaucoup de choses qui ont été vendues.
Voilà.
Là,
c'est ça,
donc moi, je suis plutôt, alors que je suis très critique en général sur le sport, je suis plutôt favorable. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les seuls Jeux de toute l'histoire qui ont gagné de l'argent, c'est les Jeux de 1984 à Los Angeles, parce que le patron, c'était Peter Thurberough, qui était le patron d'une grande ligue américaine de baseball, je crois. Et donc, des gens qui connaissent l'argent, la valeur de l'argent, qui n'ont pas l'habitude de faire des déficits, et c'était les seuls à avoir gagné de l'argent. Alors que dans tous les autres Jeux, c'était des amateurs, entre guillemets, éclairés, mais des amateurs, et ça a perdu de l'argent. Les Jeux de Montréal, ils le payaient encore jusqu'à 3 ou 4 ans.
Très longtemps, ils l'ont payé.
Il y a 3 ou 4 ans, ils payaient les Jeux.
En sachant que c'était en 76.
Voilà, c'était multiplié par 8, le Grand Stade. La facture du Grand Stade. Donc nous, si on n'a que 16%, je crois que c'est un chiffre qui circule.
Oui, donc, ça va être bientôt annoncé officiellement, les chiffres. Parce que, bon, il faut le dire, Paris 2024 a déménagé. Ils ont quitté le fameux appartement Pulse, le bâtiment Pulse, qu'on connaissait bien. Et il y a les trois quarts des équipes qui, se sont arrêtées.
Ils ont fini leur contrat.
Ils ont fini leur contrat. Il reste une toute petite équipe, c'est du début, sûrement, qui est partie dans le 18e et qui est en train, comme on dit, de solder les affaires courantes.
Alors, je voulais juste dire, je vous rejoins totalement sur l'héritage matériel. C'était plus... peut-être un peu plus sur l'héritage immatériel où, en effet, comme le président de la République, Emmanuel Macron, avait mis comme grande cause nationale cette année la France comme nation sportive, on pouvait s'étonner un petit peu, mais il y a aussi les questions de budget, de voir que finalement ces 2 heures à l'école étaient supprimées. C'était juste pour refaire un point et repréciser les choses. Par contre, l'héritage matériel, il est bien présent, notamment en Seine-Saint-Denis, et ça, c'est un vrai plus parce que c'était le département le plus pauvre en termes d'infrastructures sportives, et il y a notamment l'aréna pour la natation. Et ça, c'est très bien. Et puis, il y a aussi eu des rénovations de piscines, comme à Paris, la piscine Jean Valéry, on en parlera sur le site de Montbarré FM. Donc non, il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Attention. Mais il y a aussi des fois des petits points qu'on peut aussi aller critiquer. C'est tout à fait normal d'avoir un bilan qui est à la fois critique et puis à la fois très positif.
Mais les 2 heures à l'école, c'est le politique. Disons que c'est pas ça, les JO, c'est pas... Alors ça donnait...
Ça devait amener.
Mais c'est pas Estanguet qui est responsable.
On n'a pas dit ça.
C'est vrai que... Mais de toute façon, le budget des sports, c'est un scandale depuis...
Depuis toujours, c'est le parent pauvre.
Depuis toujours, moi je l'ai connu à 0,21%. Ça a toujours été le parent pauvre parce que c'était pas une grande cause nationale, et ça l'a jamais vraiment été.
Et puis quand on regarde, en fait, moi, quand j'ai souligné tout ça là, par rapport à la pratique sportive des enfants, Je veux dire que si on se compare, par exemple, à d'autres pays, alors pas forcément européens, mais si on prend, alors c'est encore un modèle très différent, mais les États-Unis, quand vous regardez, mais même les pays, je crois, comme l'Allemagne, sans être sûr pour l'Allemagne, mais les États-Unis, quand vous regardez la pratique sportive des enfants, elle est beaucoup plus importante. Et puis aussi,
mais c'est ça, les modèles espagnols et allemands. Exactement, c'est souvent, merci, Alexandre. Ça commence vers 7h, 8h, jusqu'à 13h, c'est des cours, et ensuite, c'est des activités sportives ou culturelles.
C'est moi, je vais mettre un gros bémol au sport aux États-Unis, c'est que tout est payant. J'ai des amis aux États-Unis, tout est payant.
Et c'est pour ça qu'il faut faire un comparatif avec les pays d'Europe, et c'est avec l'Espagne et l'Allemagne.
Parce qu'en France, c'est le modèle associatif.
Oui, tout à fait.
Moi, j'ai été très longtemps dans le modèle associatif, et heureusement qu'on a des bénévoles qui ont beaucoup plus de mérite que moi, volontaire, pendant les JO, parce que c'est aussi prestigieux d'être volontaire pendant les JO. Mais tous ceux qui accompagnent les enfants le week-end pour aller jouer des matchs de foot dans des terrains, dans des villages retirés de provinces qui pleuvent, qui ventent ou qui neigent, moi j'ai une profonde admiration pour eux. Ouais. Je pense qu'ils sont beaucoup plus méritants que nous, volontaires, pour les JO.
Beaucoup ont quand même été volontaires sur les JO.
Et beaucoup, en plus,
ces personnes-là,
ont été volontaires.
Bien sûr. Je suis totalement d'accord.
C'était une récompense. Hein.
Ouais, sans les bénévoles, le sport français n'existerait pas.
Absolument. Ouais,
tout Alors, simplement. Donc,
quelle était votre réaction quand vous êtes revenu pour la première fois sur Paris, François, quelques semaines après? Il
n'y
avait plus rien, tout était défait.
Disons que ça avait...
Ça fait drôle, hein.
Les gens, le rapport avec les gens était
plus,
tout à fait différent.
Drôle, hein.
Parce qu'autant...
RER à nouveau en retard, voilà.
Oui, enfin bon, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que dans le RER, lorsqu'il y avait les jeux, les gens passer entre deux personnes, pardon, excusez-moi,
ça rigolait, ça s'embrassait, même
voilà,
les gendarmes.
Ça rigolait, qu'on était en tenue des JO, on nous posait des questions, etc. Et maintenant, c'est vrai que c'est redevenu un peu ce que c'était avant, en pire.
Oui, oui. Allez, on va marquer une petite pause musicale, la première. Et puis ensuite, tiens, on va parler sur les prix du fair play auxquels on a assisté à la Maison du sport français ce jeudi. On y va.
Thank you.
Et bien sûr, cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast hein, dans quelques heures. Et puis, vous pouvez aussi aller sur notre site et puis écouter toutes les émissions depuis le début de saison où justement, on a aussi beaucoup parlé des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, donc, les prix nationaux du fair play. D'abord, François, il faut dire que c'était organisé par le Comité français pour le fair play. Comme chaque année, hein, c'est une vieille habitude, c'est une vieille tradition.
Oui, mais seulement le ministre n'est toujours pas là. Donc, ah, c'est oui. Ça. Voilà, bah oui, mais le problème.
Il y a des conseillers qui viennent.
Mais non, mais conseillers.
Une année, il y avait Marie-Georges Buffet, moi je me souviens.
Oui, ah oui, oh, ah, Marie-Georges Buffet. Oui, non, oui, mais oui. Je suis d'accord avec toi. Oui. Il y en a eu, il y en a un qui sont venus. Oui. Mais depuis quelques années, ben, ils ne viennent plus parce que ce n'est pas une priorité. Parce que le fair play, voilà, c'est vieux, c'est poussiéreux. Donc, bah, on n'y va pas.
Ouais. Alors, on peut rappeler un peu l'origine de ces prix du fair play.
C'était Robert Pringarbe qui a lancé un peu l'idée. Et après, c'était repris par André Catelin et Albert Bégard. Catelin, qui était président de l'Association contre la violence dans le sport et pour le fair play. Et avec Albert Bégard, qui était son bras droit, qui lui a succédé après à la présidence. Et à cette époque-là, les champions venaient. Moi, je me rappelle de Tabarly, je me rappelle de très grands champions qui sont venus à ces prix du fair play. Là, c'est vrai, il y avait Richard Astre. Bon, Marie-Jo Perret, mais tu vas le rappeler, n'avait pas pu venir. Mais je veux dire par là, c'est que malheureusement, c'est plus... Et à l'époque, l'amphithéâtre Nelson Payou était pratiquement plein. Là, il y avait 150 personnes. Donc, est-ce qu'on est pessimiste moitié vide ou optimiste moitié plein?
Donc, alors, alors Vanessa, elle va nous donner donc les principaux lauréats et notamment, donc je crois
justement
que
le prix Albert Bégard.
Il y a eu 30.
20, alors 28 prix donc nationaux du fair play et diplômes d'honneur et une lettre de félicitations.
D'accord.
Cette lettre de félicitations, je commence par ça peut-être. Mmh. Elle a été remise donc à l'école taurine de Lunel.
Oui.
D'accord. Donc le prix André Catelin et puis. Justement, on parlait d'André Catelin. Il y a un prix André Catelin qui a été remis donc à Seng Souvan Fuma Vongsa. Je vais essayer de
bravo,
prendre
elle
nom,
l'a bien dit.
Pas en parachutisme. Et ouais. Puis, diplôme d'honneur, un diplôme d'honneur aussi qui a été remis à Christian Kapfer. Ceci dans la promotion de l'esprit sportif et du code sportif. Et toujours donc dans cette catégorie, justement, le prix Albert Bégard remis à Émilie Garuchet donc en multisport à l'UCEP. Je vais peut-être revenir un petit peu donc sur cette cérémonie qui s'est déroulée à la Maison du Sport Français, donc au CNOSF, avenue de Coubertin. C'est David Labartien donc a fait le discours introductif. Il a introduit cette cérémonie donc avec Désiré du Sport, qui récompense justement les gestes et les attitudes, excusez-moi, qui font honneur au sport évidemment, en soulignant l'importance du fair play, des valeurs olympiques, évidemment. Mmh. En saluant aussi à quel point les entraîneurs et puis aussi les entraîneurs et puis tous les acteurs du sport.
Tout le monde, tous sportifs de haut niveau.
Et les commentateurs également.
Tout.
Puisque c'était donc Daniel Mangias, le grand commentateur légendaire du cyclisme.
Bah, c'est infidèle.
La voix du Tour de France.
On l'a croisé donc, jadis sur le Tour de France. Hein. Ouais.
Qui a présenté ses iris du sport. Mmh. Et puis, il a également, donc David Labartien, rappelé la réussite des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et évidemment, c'est le succès de la France. On va peut-être revenir sur quelques prix, hein, donc dans ces 28 prix.
Sur les plus grands noms.
Exactement. Ouais. Par exemple, le prix Micheline Ostermeyer qui a été remis au Club des Herbiers en basketball. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que bah, justement, cette équipe des Herbiers hein, en Vendée, lors d'un match à 10 secondes de la fin, demandé à l'arbitre donc de remettre la balle à l'équipe adverse. Voilà. Et puis... toujours donc dans l'attitude fair play, donc, le diplôme d'honneur a été remis à Kathleen Nedelec en danse country and line. Et la petite alors l'histoire, c'est quoi ? C'est que justement, cette danseuse de country avait une concurrente qui avait des chaussures qui n'étaient pas du coup adaptées parce que le sol était mouillé. Et elle lui a prêté ses bottes, justement, à cette concurrente. Et puis, il y a eu évidemment le prix Fernand Sastre qui a été remis à François Castille en football. Je vais en citer quelques autres. Le prix Colette Besson à Jocelyne Vilton en athlétisme. Évidemment, le prix Jo Mazo en rugby à Richard Astre en rugby à 15. J'étais d'ailleurs assis à côté de lui, cette grande légende du rugby. Peut-être en donner d'autres aussi dans la catégorie esprit sportif et carrière sportive. le prix Patrice Martin qui a été remis à Stéphane Peter Hansel.
Oui, qui n'était pas là, hein, qui était malheureusement forfait, mais bon, grand monsieur du Paris-Dakar, entre autres.
Et puis aussi dans les juges arbitres, donc Rémy Azemar en tennis. Mmh. Je vais vous en donner quelques autres. Dans le prix de l'excellence, Amitié et Respect, le prix Pierre de Coubertin, ça a été remis à Gilles Lecoq. Qu'est-ce qu'on avait ? Et puis le diplôme d'honneur, Pascal Conciani et Émilie Garuchet, on en a parlé tout à l'heure, pour le prix Albert Béga. Et puis Philippe, vous avez interviewé notamment Alain Calma, on va en reparler.
Oui, ça, on va en reparler, voilà. Mais il y avait aussi Marie-Jo Pérec qui devait venir, il faut dire.
Et donc pour le prix Alain Calma, justement. Oui.
Oui. Et Marie-Jo Pérec, elle n'a pas pu venir, elle a eu un petit peu peine à travers son fils.
Exactement. Hein,
qui s'est, que je crois, cassé le poignet ou le bras la veille. Et donc, malheureusement, Marie-Jo Pérec n'a pas pu venir. À cette cérémonie des prix du fair play. Alors justement, comme d'habitude, on a ramené quelques interviews. Alors on va commencer avec celui qui a été le ministre des Sports de François Mitterrand, mais qui a été aussi médaille d'argent en 64 en patinage artistique à Innsbruck. C'est naturellement Alain Calma. Je suis avec Alain Calma. Alain Calma, toujours fidèle à cette cérémonie des fair play.
Écoutez, c'est une façon de retrouver les gens que j'aime beaucoup. Les gens qui ont les mêmes idées que moi, en tout cas en ce qui concerne l'évolution du sport, en ce qui concerne les véritables qualités de l'activité sportive et des compétitions. Je suis en famille et ça fait toujours plaisir de revoir les anciens et même les nouveaux.
Oui, et puis dans un monde aussi violent qu'est le nôtre actuellement, c'est important. Hein.
Absolument, et c'est absolument nécessaire que nous restions très unis et sur les bonnes idées. Alors évidemment, il y a Pierre de Coubertin, ça, bien sûr les choses ont évolué, mais il faut qu'on fasse très très attention à ne pas se laisser disperser par des éléments, disons, un petit peu violents et désagréables pour l'ensemble de la population.
Et puis on a honoré une de vos voisines. La célèbre et la populaire Marie-Jo Pérec.
Voilà, tout le monde a appris qu'on n'habitait pas loin l'un de l'autre. C'est vrai, ça fait plusieurs années qu'on se rencontre très régulièrement dans Paris. Je ne dis pas où c'est parce que je ne veux pas l'embêter. Mais on est vraiment très proches en plus. Et moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai suivi depuis très très longtemps. Et maintenant, bien, on a la chance de se voir souvent.
Oui, le ministre que vous avez été, l'homme des Jeux d'hiver que vous avez été, hein, le médaille olympique, comment vous avez vécu ces Jeux d'été qui ont été fabuleux, quoi ?
Alors les Jeux ont été tout à fait formidables et j'y ai participé un peu. Comme ancien porte-drapeau, j'avais la possibilité d'aller quand même dans quelques compétitions qui m'intéressaient. Je trouve ça extraordinaire. Je regrette simplement que... Le retour à la terre ferme, si j'ose dire, sur le plan financier, pose problème. C'est dommage. J'espère que les choses s'arrangeront.
Voilà. Parce qu'on en parlait, ce fameux héritage, on ne tient pas complètement les promesses.
Non, mais écoutez, il fallait s'y attendre. Hein. De toute façon, on savait que s'il n'y avait pas... une contrepartie pour le sport en général dans notre pays, ça serait qu'une demi-victoire. Mais peut-être que ça changera et on est là, en tout cas, le mouvement sportif, pour faire attention.
Et puis pour finir, Alpes 2030 maintenant.
Voilà, là, bien sûr, Alpes 2030, c'est aussi très important.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, une petite réaction sur ce que vient de dire Alain Calma. François ?
Alpes 2030, hein, je me suis expliqué tout à l'heure. Hein. Mm-hmm. Je crois que c'est beaucoup trop tôt, parce que la France, malheureusement, dès qu'il y a une compétition internationale organisée, la France porte candidate. Elle a eu raison pour les Jeux de 2024, parce que c'était porté par Nelson Payou depuis 1982. Mm-hmm. Donc c'était un projet ancien. Quand on voit par exemple l'Euro 2016 de football, ce que ça nous a coûté, dans la mesure où les villes n'ont pas été indemnisées à hauteur de leur investissement, on peut se poser des questions. Voilà, dès qu'on a envie d'organiser une grande compétition, là on pense à la France, et la France un peu, idiote, bah, elle dit bah oui, monsieur, d'accord.
Et puis peut-être juste rappeler le palmarès donc, d'Alain Calma, qui, hormis son titre de vice-champion olympique, a eu 6 médailles européennes, dont 3 titres, 5 médailles mondiales, dont un titre, et puis quintuple champion de France et 2 fois vice-champion de France. Un grand monsieur du patinage. Et moi, le premier livre que j'ai reçu sur le patinage artistique, puisque c'est mon sport de prédilection, et ben, ça faisait partie évidemment des légendes. Et puis ensuite, donc ministre. Donc un grand monsieur du sport français aussi.
Voilà.
Qu'on leur salue s'il nous écoute.
Alors, très brièvement, donc, ministre, à part que Michel Hidalgo a refusé la proposition. Hein.
Voilà. Ministre de Laurent Fabius. Anecdote.
Ouais. Allez, on va écouter maintenant la deuxième interview. Alors, c'est une tradition, hein, on honore aussi des arbitres dans cette cérémonie des fair play. Alors, on va écouter François Castille, qui est un arbitre de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, qui a été naturellement récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Allez, avec François Castille, qui a été honoré. François, on a rendu à travers cette journée des fair play hommage à l'arbitrage.
Oui, bah écoute, j'ai été arbitre de district, arbitre de ligue en Bourgogne et en Franche-Comté. Et je pense que l'arbitrage est une belle école de la vie.
Oui, alors justement, c'est Bruno Dorien qu'on connaît bien, hein, qui vous a remis ce trophée. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'être arbitre? Je suppose que c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 20, 30, 40 ans. La société a beaucoup bougé, beaucoup évolué.
Oui, c'est vrai que lorsque j'arbitrais, donc ça il y a 50 ans maintenant, hein. Les joueurs se tenaient, acceptaient les décisions assez facilement. Bon, on n'avait pas beaucoup de problèmes. D'ailleurs, les cartons n'existaient pas lorsque j'ai commencé. Ensuite, j'ai vu arriver. Et dans l'ensemble, quand même, les joueurs se tenaient sans trop de problèmes.
Oui. Et donc, les jeunes sont quand même attirés par l'arbitrage. Vous avez des jeunes en foot encore qui veulent devenir arbitres?
Bien, là, à mon époque, c'était le début de l'arbitrage des jeunes et on avait récupéré beaucoup de joueurs qui n'étaient pas très allants dans le football et on les avait dirigés vers l'arbitrage et finalement, on en a fait de très bons joueurs, très bons arbitres.
Il y a quand même des vocations, quoi. Hein, même à l'heure actuelle.
Ah ben, il peut y avoir des vocations. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de jeunes dans les arbitres de haut niveau qui ont commencé très, très, très jeunes. Très jeunes.
L'homme, l'arbitre que vous êtes, que pense-t-il de la VAR sur le plan professionnel?
Ah, la VAR.
Ben, la c'est VAR, bien, c'est pas bien?
Moi, je pense que c'est bien, mais est-ce qu'elle est bien utilisée? Je ne pense pas qu'elle soit bien utilisée. Et aussi, elle peut être difficile d'interprétation compte tenu de l'arbitre qui officie sur le terrain, au milieu. Parce qu'il y a des arbitres qui n'aiment pas trop être déjugés et qui veulent pas, ça donne cette impression, qu'ils veulent pas que la VAR les disculpe. Quoi.
Ouais, ça corrige certaines injustices. Mais par contre, il faut que l'arbitre quand même reste l'homme de la situation. Il faut que le jugement humain reste le dernier jugement. Quoi.
C'est tout à fait. Mais il faut que l'arbitre accepte qu'il s'est trompé, parfois. Il ne se trompe pas toujours, mais parfois, il faut qu'il accepte. Et bien, alors que dans certains cas, on voit bien que l'arbitre ne veut même pas aller voir la VAR, alors que manifestement, il y a une faute.
Voilà, François, un petit mot sur ce que vient de dire cet arbitre.
Ben, je trouve que c'est admirable. Ouais, hein, ouais, disons, être arbitre aujourd'hui, c'est quand même très, très, très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'incidents, les parents qui veulent s'en mêler. Mais c'est logique, c'est la conséquence du sport qui devient de plus en plus un sport où l'argent est présent. Donc, à partir du moment où l'argent est présent, les parents, font des plans sur la comète pour leurs enfants. Et puis, si ça ne tourne pas bien, ils s'en prennent à qui? Ils s'en prennent aux arbitres, aux éducateurs, aux entraîneurs, et voilà, sans chercher en eux leur propre responsabilité dans l'éducation de leur gamin ou gamine.
Absolument, et justement, Philippe, tu sais très bien que je suis arbitre tous les week-ends. Et,
le journalisme, mais d'où voilà. Non, je blague. Ça, non, c'est pour tes heures, ouais.
Et c'est très important ce qu'il a dit, parce que c'est important pour un arbitre de reconnaître l'erreur. Oui. Et d'autant plus chez les jeunes, avoir un aspect pédagogique, toujours expliquer ses décisions sans trop devoir se justifier pour autant, mais expliquer les décisions, c'est important. Et c'est vrai, là je suis d'accord avec, avec François, c'est que ces derniers temps, c'est les éducateurs, voire les parents, qui sont très problématiques. Mais heureusement, on a des... et je réponds à sa question, justement. On a quand même des... bon, là, du coup, je parle pour le district des Hauts-de-Seine, de plus en plus de jeunes qui veulent s'inscrire à l'arbitrage.
Ça, c'est bien. Bah, on en a eu un qui est venu pendant l'Euro, hein, qui a été notre consultant. Hein.
Ouais. Après, ça, c'est un arbitre fédéral. Mais
oui. Mais enfin, bon, il est plus jeune, quand même. Hein.
Notamment les clubs de Neuilly, par exemple, qui travaillent très bien. Voilà.
Eh bien, tant mieux.
Bah, allez. C'est une bonne nouvelle. Ouais.
Allez, on va écouter maintenant celui qui a bien connu Marie-Jo Pérec, hein, comme Marie-Jo Pérec n'était pas là. Ça a été son premier entraîneur au PUC. Hein, c'est un ex-champion de France sur 400 et puis 800, Michel Samper, champion de France en 65 et 67. Vous allez voir, il nous parle vraiment de Marie-Jo Pérec, qu'il l'a bien connu. On l'écoute. Alors, je suis avec Michel Samper, qui a été un des premiers entraîneurs de Marie-Jo Pérec. Pouvez-vous nous parler aujourd'hui de Marie-Jo? Vous l'avez bien connu à ses débuts, ça n'a pas toujours été facile. Hein.
Bah, j'ai connu Marie-Jo. Alors, il y a un petit no-man's land au milieu. Je l'ai connue parce qu'elle tentait d'être arrivée de ses Antilles natales à Paris. Elle est venue au PUC. Donc, on l'a trouvée complètement brute de forge, à la fois au niveau de son éducation personnelle et aussi de son éducation sportive. Mais on avait déjà senti qu'elle avait des grandes qualités. Elle a fait la carrière que vous connaissez, 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques, c'est la seule. Elle est restée chez nous pendant quelques années. Et je pense qu'on a eu quand même du mal à la gérer, parce qu'elle était aussi complètement perdue à Paris. Elle arrivait de là-bas. Et donc, ça n'a pas toujours été facile, mais on y a trouvé de quoi travailler, de quoi se loger. On a trouvé un très bon entraîneur qui a été le premier à l'amener déjà au haut niveau. Et puis, parmi ses bêtises, un jour, elle n'a pas voulu participer aux interclubs, et donc j'ai été obligé de l'exclure. Voilà, notre histoire, je pensais, s'arrêterait. Effectivement, elle s'est arrêtée un certain nombre d'années parce qu'on n'a plus entendu, elle n'est plus revenue, elle ne me parlait plus, alors que j'étais un peu celui qui l'avait accueilli. Et puis après sa carrière sportive, en 2004, elle a fait encore la dernière bêtise, elle n'a pas couru à Sydney, elle s'est échappée.
2000, oui.
Voilà, hein, 2004, jeu. Et donc, je pense qu'elle a dû commencer à réfléchir. Elle a arrêté le sport, elle a trouvé un compagnon, elle a fait un enfant, elle a fait des bouquins, etc. Et un jour, dans un événement où elle était encore distinguée, elle a parlé de sa jeunesse, elle a remercié une personne, c'était moi. J'étais là et j'en revenais pas, et on ne s'était pas parlé. Donc, évidemment, on a renoué. Et depuis que je suis président du comité d'éthique de la Fédération française d'athlétisme, j'ai pris conscience, comme elle d'ailleurs, que le sport est un formidable moyen d'ascenseur, je ne vais pas dire même d'ascenseur, de formation, non pas uniquement sportive pour la performance, mais la formation personnelle pour son caractère et une formation pour s'inclure dans la société. Et donc, elle est devenue extraordinaire. Vous l'avez vu pour les Jeux Olympiques, elle a été l'ambassadrice, elle fait la promotion des valeurs du sport. Et tellement que je l'ai proposé et je lui ai même remis le prix de l'éthique de la fédération. Et j'aurais jamais pensé lui remettre il y a 20 ans ou 30 ans. Et aujourd'hui, c'est un exemple. Et il faut beaucoup parler de son cas parce qu'il est très révélateur de ce que le sport peut apporter aux personnes et à la société. Merci Marie-Jo.
C'est vrai que c'est une des sportives les plus populaires. Et quelle année pour elle, hein, ce prix du fair play qui vient s'ajouter à la flamme qu'elle a donc allumée au jeu, les Basques.
Oui, alors le prix du fair play, je ne sais pas, bon, par rapport aux médailles olympiques,
l'ensemble de sa carrière.
Donner une anecdote aussi, quand je l'ai, à la dernière assemblée générale de la fédération, elle est venue pour remettre un certain nombre de récompenses à des acteurs de l'athlétisme méritants, pas uniquement des sportifs, mais de tout le monde. Et j'en ai profité pour m'adresser au présent, il y avait 200 personnes, pour dire qu'on allait lui donner. Elle le méritait, et j'ai expliqué pourquoi, le prix de l'éthique. Elle était à côté de moi. Je ne sais pas si elle a versé une larme, mais elle a été très émue. Et je lui ai dit, tu sais Marie-Jo, tu as eu 3 médailles d'or, et tu es émue par la reconnaissance. Elle me dit oui, parce que ça, c'est très important pour moi. Vous voyez, et les gens, d'ailleurs, jamais j'aurais osé la proposer il y a quelque temps. Et tout le monde a applaudi, et tout le monde aujourd'hui, en plus avec ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, parce qu'elle a prouvé, par ses interventions médiatiques et autres, et son comportement, que c'est vraiment une ambassadrice maintenant du sport, mais pas uniquement pour le haut niveau, le sport fédérateur, le sport de bien vivre ensemble. Voilà. Merci.
Quel témoignage, hein, François, quel témoignage de Michel Samper. Hein.
Mais Samper, c'est quelqu'un que j'ai vu à Colombes dans les années 60, quand j'étais gamin. Donc c'est pour te dire que l'âge qu'il a et qu'on l'a vu, c'est vraiment une taille de jeune homme. Il est vraiment, il est quelqu'un de 60 ans, svelte, incroyable.
Et puis, bon, Marie-Jo Perret, dès qu'elle a quitté le PUC, elle a rejoint le Stade français. Alors, bon, Michel Samper, dans la précipitation, il a fait une petite erreur. C'est en 2000 qu'elle est partie. Et, par contre, elle a arrêté sa carrière en 2004. Voilà. Allez, on va écouter un fidèle, un habitué, pour finir cette série d'interviews. Et vous allez voir, il parle beaucoup également des bénévoles à travers le sport. Eh bien, c'est le président de la Fédération française de ski nautique depuis 2009, Patrice Martin. Patrice Martin, c'est 12 fois champion du monde, 32 fois champion d'Europe. Malheureusement, son sport n'a jamais été olympique, mais c'est un des sportifs français les plus titrés. Patrice Martin. Allez, on y va. Avec Patrice Martin, toujours fidèle à cette cérémonie des prix du fair play.
Ben oui, d'autant plus qu'il y a un prix Patrice Martin. Donc alors il y a eu quelques années où malheureusement il y a d'autres obligations loin du territoire français. Mais voilà, c'est une tradition. C'est déjà beaucoup d'honneur d'avoir un prix du fair play, même si j'ai reçu ce prix il y a longtemps maintenant. Mais de représenter ces anciens... ces athlètes qui ont marqué une époque et remettre aujourd'hui, redonner à d'autres justement un prix, je pense que c'est important. Et de conserver, c'est beaucoup plus qu'une tradition, un besoin de construction au travers du sport, de la société de demain. On voit que c'est un challenge parce que bon, tout le monde ne l'entend pas comme ça, chacun vit dans son petit coin, mais voilà, ça permet d'être sociable, ça permet d'être respectueux, ça permet de respecter des règles. Et les règles, ce n'est pas que dans le sport, c'est quand on est sur la route, c'est quand on paye ses impôts, et des fois on doit payer des amendes parce qu'on n'a pas respecté certaines choses. Et puis c'est aussi la partie santé, le bien-être. Un bien-être qui est aussi bien physique qu'intellectuel. Quand on fait du sport, ça nous aère l'esprit et puis ça nous fait du bien aux muscles, aux tendons, et puis on est un petit peu moins gros. Donc quelque part, c'est s'engager pour l'avenir, parce que demain, on ose espérer qu'il y aura moins de maladies, moins de gens en mauvaise santé, et donc moins besoin de médicaments. Pas dire de médecins, parce que médecins, il y en a toujours besoin, mais en tout cas moins de médicaments, donc ça coûtera moins cher aussi à la société.
Oui, puis on a quand même un monde de plus en plus dur, et ça c'est important.
Oui, plus dur, non, c'est l'évolution. Je pense que dans les années 60, nos parents ou grands-parents pensaient que c'était plus dur, et puis dans les années 80 aussi, puis on est dans les années 2020. En fait, il y a des évolutions, il y a une transformation, mais je pense que ce sont des renouvellements, des cycles, un recommencement. Et l'important, c'est pas voir la vision d'aujourd'hui ou de demain, c'est... La vision dans 20 ans, c'est quoi le sport dans 20 ans et comment on veut le faire évoluer dans 20 ans? Le sport de demain, la société de demain, elle est déjà faite. Ou d'après-demain, c'est déjà fait. Donc c'est d'avoir cette vision beaucoup plus loin et de s'assurer que ce qu'on décide aujourd'hui, ça aura du sens dans 20 ans. De prendre des solutions pour demain, c'est mettre un bout de sparadrap et peut-être sur une jambe de bois, donc un autre, ça ne va pas avoir d'effet. L'effet sur nos modifications, sur nos transformations, sur nos évolutions, on sait qu'elles vont prendre minimum 5 à 10 ans. Et pour que ce soit inscrit dans la société, une vingtaine d'années.
Bon, ces Jeux 2024, vous les avez vécus comment, vous ?
Bah, vécu bien, alors à moitié de l'intérieur, mais beaucoup de l'extérieur, parce que c'est aussi important de le vivre un peu de l'extérieur. J'ai eu la chance d'aller voir des Jeux loin de la France, où là on le vit de l'intérieur parce qu'on est dans l'équipe olympique, le CNOSF et tout. Là j'avais envie de le vivre un petit peu comme un... vais pas dire comme un touriste, mais comme un spectateur, et regarder un petit peu les bienfaits que ça fait à la ville, au pays, au bien-être. Il y a des gens qui ont découvert Paris, beaucoup d'étrangers, mais aussi des Français, qui ont découvert Paris sous une autre lumière. Et ça a montré que la France s'est organisée de très belles façons. Puis on a mis en avant le patrimoine français. C'est ça aussi qui a vraiment plu. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des lieux emblématiques de la France, iconiques, historiques. Et c'est là où il y a eu cette petite différence. Et puis la petite cerise sur le gâteau, le nombre de médailles, même si à un moment ou à un autre on espérait beaucoup plus, hein, parce qu'on était à 80 médailles à un moment ou à un autre, hein, voilà. Mais ça n'empêche que ça montre qu'il y a un engouement et il y a l'effet local qui a marché, et ça a mis en avant nos grands athlètes.
Il nous reste l'héritage aussi maintenant, ça ne faut pas se louper.
Oui, mais alors là, l'héritage, ça fait longtemps qu'on en parle. Je ne sais pas si l'héritage va arriver. Alors, la loi héritage, je ne sais pas si elle va vraiment arriver et si elle va vraiment accoucher de quelque chose de grand. Ça paraît compliqué aujourd'hui, vu les finances de l'État. Je pense qu'il y a des choses simples, notamment sur que le sport soit intégré à la société, que le sport soit un pilier de la société de demain, dans le développement de la société. Alors, pas le sport compétitif, mais avoir du temps sportif pour l'ensemble de nos jeunes, parce qu'on sait que ces jeunes, demain, seront des seniors. Et si on a appris à s'entretenir physiquement, on continuera à le faire. Si on ne l'a jamais fait, on n'aura pas ce besoin et pas cette envie. C'est parce qu'on est gamin qu'on se rend compte que c'est intéressant. Puis, en plus, ce n'est pas forcément faire du sport pour de la compète. Il y a de la place pour tout le monde dans le sport. Il y a besoin de médecins, il y a besoin de kinés, il y a besoin de vidéastes, il y a besoin de journalistes, il y a besoin de photographes. Il y a plein de métiers dans le sport, d'arbitres, de juges, d'officiels, de préparateurs, de logisticiens. Donc on peut être intégré au monde du sport et vivre sa vie autour du sport, et donc de manière active, sans être compétiteur. Et c'est ça qu'il faut amener, c'est vraiment, il y a un rôle économique qui est faible, parce qu'il n'y a pas forcément d'échange de l'argent, il y a beaucoup de bénévoles, mais sans ces bénévoles, le sport n'existerait pas. Et quand on voit les Jeux Olympiques, 45 000 bénévoles, mais c'est qu'aux Jeux Olympiques, il y a eu plein d'autres événements. Ma fédération a organisé un championnat du monde de wakeboard 4 cette année, on avait plus d'une centaine de bénévoles. Et sans les bénévoles, s'il fallait payer tout le monde, ça ne pourrait pas se faire. Donc économiquement, c'est important, puis ça donne du bien-être aux gens. Les spectateurs qui viennent voir les compétitions, quand ils repartent, ils ont toujours la banane.
Merci Patrick, merci. Voilà, effectivement, ils ont toujours la banane. Toujours des mots très justes et très forts, hein, Patrice Martin.
Disons que oui, c'est un champion exemplaire. Il est d'autant plus exemplaire qu'il est d'une fidélité remarquable au fair play. Mm-hmm. Je crois que c'est le champion, disons, le plus titré du sport français et celui qui a le plus de présence au prix du fair play. Ouais. Donc, c'est remarquable. Et puis, effectivement, de parler comme il parle des bénévoles, en parlant donc de ceux qui sont dans des petites compétitions. Parce que les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. C'est facile, à la limite, d'être volontaire aux Jeux Olympiques. C'est plus compliqué lorsque tu es volontaire dans des petites compétitions où tu n'as pas la même infrastructure, où tu n'as pas le même encadrement.
Allez, on va marquer la deuxième pause musicale. On a eu, je crois, le groupe ABBA. Maintenant, ça va être les Beatles pour la deuxième pause musicale.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted,
Allez, vous êtes habitués maintenant à nos rendez-vous. Alors, avant d'avoir la page shoot avec notre ami du quotidien du sport, Stéphane Desenclos, on a naturellement le journal des sports, l'Omnisport, tout sauf l'actu foot, avec Alexandre. Et il y a un copieux menu ce week-end.
Copieux menu, ouais, absolument, hein, Philippe. Ouais. Donc, on commence ce journal des sports avec l'événement du week-end, donc la Formule 1.
Quatrième titre.
Max Verstappen remporte justement son quatrième titre mondial d'affilée à Las Vegas hier. Il termine cependant cinquième, puisque c'est George Russell qui termine premier, Lewis Hamilton et Carlos Sainz sur le podium, et Charles Leclerc quatrième. Donc, il reste maintenant deux grands prix avant la fin de la saison, Doha et Abu Dhabi. Au classement des constructeurs, McLaren est leader à 24 petits points de Ferrari, Red Bull est troisième. Donc, le suspense est total pour
demeure,
l'instant.
Ouais. Tant mieux.
Et Philippe, on vient d'avoir l'officialisation il y a une trentaine de minutes. Le groupe General Motors va rejoindre la Formule 1 en 2026 avec sa marque Cadillac. On rappelle qu'au début de l'année, la FIA avait refusé l'entrée de la marque américaine. Mais voilà, finalement, après Audi, General Motors Cadillac rejoindra bien la F1 en 2026 et deviendra la 11e écurie avec notamment une recrue de taille, Rob White, l'ancien directeur du département moteur de chez Renault.
D'accord.
Voilà. Après la Formule 1, c'est le rallye maintenant.
C'est fini.
La fin des championnats du monde au Japon. Elphine Evans, Sébastien Ogier et Adrien Fourmeau ont formé le podium de la dernière course de la saison. Au classement des pilotes, c'est le Belge Thierry Neuville qui remporte les championnats. Elphine Evans est deuxième, Ott Tanak est troisième, Sébastien Ogier quatrième et Adrien Fourmeau cinquième. Saison plutôt bonne pour nos Français. Au classement des constructeurs, c'est Toyota, l'écurie japonaise, qui remporte ses championnats du monde à domicile. Finale très serrée puisque Hyundai termine à seulement 3 points derrière. En tennis, victoire de l'Italie, on en parlait tout à l'heure en off. Victoire de l'Italie en Coupe Davis pour la deuxième fois d'affilée, portée par le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Les Italiens sont venus à bout des Pays-Bas. L'Italie domine le tennis actuellement puisque 4 jours avant, l'équipe féminine remportait la Billie Jean King Cup contre la Slovaquie. Compétition qui n'est pas le fort de la France puisque, important de le souligner, elle s'est faite rétrograder et jouera dans le groupe B la saison prochaine. Mais la grande nouvelle de la semaine, c'est bien sûr l'annonce officielle de la retraite de Rafael Nadal. Très grand monsieur du tennis, 92 titres en simple, dont 22 en grand chelem, avec un record de 14 victoires à Roland-Garros. Bien évidemment, les hommages se sont succédés. Le tennis voit un énorme champion se retirer. Victoire de nos bleus du rugby contre l'Argentine, 37-23 vendredi en amical. Autre résultat important, l'Afrique du Sud qui s'impose largement contre le Pays de Galles, 45-12. La Nouvelle-Zélande qui s'impose 29-11 contre l'Italie. Et l'Écosse qui gagne 27-13 contre l'Australie. Derby parisien en top 14 hier entre le Stade français et le Racing. Victoire nette et sans bavure du Stade français, 40-24, avec notamment un bon Carbonel qui réalise 5 transformations. Au classement, le Racing est toujours devant malgré cette défaite.
Oui, je voudrais juste connaître un petit peu l'opinion de François, qui avait suivi les émissions sur le rugby avec nous pendant le Mondial. François, 3 matchs, 3 victoires pour l'équipe de France, ça s'annonce plutôt bien.
Oui, 2025. Ça s'annonce bien, mais le problème, c'est que c'est, disons, un mini-tournoi d'automne. Effectivement, on préférerait les voir réaliser ce type de performance lors de la Coupe du Monde, qu'ils n'ont jamais remporté. Bah oui. Ceci dit, c'est très grande performance, notamment contre les Blacks. Donc ça augure bien la prochaine Coupe du Monde, on l'espère.
Allez.
Au classement du coup du top 14, le Racing est toujours devant malgré cette défaite, à la 8e place, et le Stade français est 10e. Le Stade toulousain, Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais forment le podium. Puis Philippe, maintenant on passe en handball avec les résultats de la 11e journée de Star League. Le PSG gagne son match du week-end contre Chambéry 37-31 et reste leader, tout comme Nantes qui gagne contre le Pays d'Aix 39-30 et qui talonne le Paris Saint-Germain. Victoire importante de Créteil contre Istres 33-28 qui permet aux Cristoliens de passer à la 10e place. Pas de match pour Ivry cette semaine qui devra rattraper son match en retard justement contre Toulouse. En volleyball, défaite de Paris 3-1 contre Chaumont et défaite du Plessis Robinson sur le même score contre Narbonne. Au classement, nos deux clubs franciliens sont mal embarqués puisqu'ils sont respectivement avant-dernier et dernier. Chez les femmes, le Valois-Paris s'est incliné 3-2 à domicile contre Terville-Florange. Au classement, le club est 3e derrière Nantes et Mulhouse. En basket, trêve internationale et c'est un sans faute pour l'instant pour nos Bleus dans les qualifications au championnat d'Europe. 4 matchs, 4 victoires. Cette semaine, les Bleus ont gagné leurs 2 matchs contre Chypre, 75-59, 85-70. Rappel bien sûr Philippe de la victoire juste avant la trêve du Paris Basket en Euroleague contre Anadolu Efes, 93-84. Au classement, le Paris Basket est 4e à 2 points du leader Fenerbahçe. Mmh. En tennis de table, là ça va faire plaisir à tous nos... Oui. Tous ceux qui regrettent les Jeux Olympiques. Ouais. En tennis de table, les frères Alexis et Félix Lebrun ont terminé ce samedi leur incroyable année 2024 en remportant la finale du double des WTT Finals au Japon, l'équivalent du Master en tennis. Les deux cracks du ping-pong français finissent 2024 comme numéro 1 mondiaux, du jamais vu pour une paire tricolore. On rappelle leur année 2024, médaille olympique, champion d'Europe et maintenant numéro 1 mondial.
Quelle année ?
C'est incroyable, ouais. Surtout que de mon préjas pour la suite, puisqu'ils sont très très jeunes. Un point léger en Vendée Globe maintenant. Charlie Dalin est toujours en tête. Charlie Dalin, toujours en tête. Le skipper de Massif Santé Prévoyance a repris du terrain dans la nuit sur Thomas Rouillant, qu'il devançait de presque 50 miles à 7h du matin. Derrière Charlie Dalin et Thomas Rouillant, donc c'est Johan Richomme qui complète le podium. Samantha Davis est 10e et c'est la seule femme justement de ce top 10. Rappel des résultats de la Coupe du Monde de ski alpin
à Görgl française
en Autriche. Ouais. Voilà. Deuxième victoire d'affilée pour le Français Clément Noël en slalom, une semaine après Lévy. Steven Amiez termine 4e et se rapproche de plus en plus du podium. Chez les femmes, nouveau succès de l'américaine Michaela Schifrin, l'inévitable, qui pointe à la première place du classement général, sans surprise. Clarisse Brèche est la première Française présente dans le top 50, elle pointe à la 21e place. Et Marie Lamure est-elle 26e? Donc on a basculé dans les sports d'hiver. Forcément, Vanessa, un petit point sur le patinage artistique.
Eh ben, tout à fait, Alexandre. Donc avec la Coupe de Chine, 6e et dernier Grand Prix donc, avant la finale à Grenoble. Donc notre Français Adam Siaoufa a fait 3e. C'était avec 2 performances décevantes. On l'a vu déjà entrer sur la glace dès le programme court avec le visage marqué. Il faut rappeler qu'il a eu une préparation tronquée par une blessure donc, à la cheville gauche avec rupture partielle du ligament. Donc c'était un Grand Prix de Chine très difficile pour lui. C'est le japonais Shun Sato qui l'a remporté devant le kazakh Mikhail Chaïdorov. Et on va quand même s'arrêter sur la prestation de Mikhail Chaïdorov qui a fait une combinaison inédite, triple axel, quadruple piqué et 3 autres quadruple sauts. Ah, il a été incroyable. Pour les autres résultats, donc en danse sur glace, c'est les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabri, les vice-champions du monde, qui l'ont emporté devant les Canadiens Marjorie Lajoie et Zachary Laga, et les Américains, donc Christina Carrera et Anthony Ponomarenko. Et en danse sur glace, donc 7e place pour Lucien Desmougeot et Théo Lemercier, qui dans un contexte très relevé, ont vraiment très bien patiné. C'est un très bon résultat. Ensuite, en couple, 6e place donc, de Camille et Pavel Kovalev, dans une compétition remportée par les Italiens. Et enfin, on va quand même tout de même souligner ça, très important, Humberglund l'emporte chez les filles avec un triple axel. Elle est la seule à le réaliser sur cette compétition et l'une des seules au monde à le proposer aujourd'hui, devant la japonaise Moneshiba et Cheon Kim. Et c'est tout donc pour ce Grand Prix de Chine. Rappelez juste qu'il y aura 9 Français qualifiés pour la finale du Grand Prix à Grenoble. Donc Kevin Emos qui sera à la maison, Adam Seymfa qui s'est qualifié, donc 2 hommes, un couple de danse sur glace, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot. Et puisque ce Grand Prix de France rassemble aussi les juniors, il y aura aussi donc Célina Fradji et Jean Sournon en danse sur glace, Roman Télémac et Lucas Coulon en couple artistique, et notre jeune Française Stéphania Glatky. Voilà pour le point sur le patinage artistique.
Merci. Très bien. Vanessa. Et puis on termine par ce sport de combat. Des sports, voilà. La boxe et le nouveau succès d'un boxeur que l'on suit, Philippe Bakary Samaké, obtenu samedi au Forum des Halles face à Wade Ryan par abandon au 7e round pour le titre WBC Silver. Il reste invaincu avec 17 victoires et défendra son titre le 18 avril prochain à la Défense Arena avant le concert du rappeur Gazo, justement.
Là où était François.
Ouais. Et samedi moins joyeux pour notre invité de la semaine dernière, Philippe, Christopher Odena, a.k.a. O Monstro, qui perd son match aux arènes de l'Agora à Évry-Courcouronnes face à Djibril Uchiwa. Première défaite en professionnel pour O Monstro, mais on en parlera la semaine
Dans 15 jours. Voilà. Merci en tout cas pour ce point donc, du journal des sports très complet. On va finir avec mon ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport. Stéphane, bonsoir. Est-ce que Stéphane m'entend, Desenclos ? Bon, alors apparemment Stéphane n'entend pas, donc il va nous mettre ça du côté de la régie, on va nous arranger ça. On va parler des championnats de foot, du coup.
On peut parler de la Ligue 1.
Voilà. Alors on va dire que Monaco, c'est le statu quo. Hein. Monaco a battu Brest 3-0, le PSG a écrasé Toulouse 3-0, victoire de Marseille à Lens 3-1, Saint-Etienne qui bat Montpellier 1-0, nul entre Reims et Lens 1 partout, Lille qui bat Rennes 1-0, Auxerre dans un match très important qui bat Angers 1-0, victoire aussi du Havre à Nantes 2-0, et puis Nice qui a battu Strasbourg 2-1, ce qui fait que le PSG, donc je l'ai dit, c'est statu quo, hein, 32 points en tête devant Monaco, 2e 26, 3e Marseille 23 et 4e Lille 20, alors que donc en bas de tableau, Strasbourg donc est 11e, égalité avec Brest et Saint-Etienne avec 13 points, 14e Le Havre 12 points, 15e Rennes 11 et 16e donc Nantes et Angers pour qui ça sent le roussi avec 10 points et 18e et dernier Montpellier 7 points. Tu as un petit commentaire là-dessus ? C'est le statu quo pour l'instant.
Rapidement,
hein.
Voilà, oui. C'est un statu quo, Paris qui s'envole tranquillement et puis Monaco-Marseille qui sont toujours dans le podium. Les bonnes équipes actuelles, c'est plutôt Lille et Nice qui gagnent leur match du week-end et qui continue de coller au podium. Et puis Montpellier, bon, on en parle souvent, et Rennes, très compliqué aussi.
Mais ça reste serré quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y a 3 points d'écart entre les 16e et puis le lot des...
Oui, tout est encore à jouer, bien sûr. Oui,
de Strasbourg, les trois qui forment, je dirais, le ventre mou du championnat. Voilà. Allez, on va parler en Ligue 2 avec la 14e journée. Paris FC qui stagne aussi un peu, hein, 0-0 devant donc Annecy. Mais comme Lorient stagne aussi avec un nul à Bastia 0-0, il n'y a pas trop de changements au général. Victoire de Pau devant le Star 4-1. Nul entre Clermont et Metz 1-1. Alors que ce soir, il y a donc un match important puisque Dunkerque reçoit l'AC Ajaccio à 20h45. Pour l'instant, donc, je l'ai dit, Paris FC en tête avec 28 points devant Lorient 2e 27, 3e Metz et Dunkerque 25. Alors qu'en bas de tableau, là aussi, c'est très serré. Donc Caen 14e avec 14 points. 16e Ajaccio Restart également avec 14 points. Et 18e Martigues 9 points. Ils ont 16 points, pardon. Donc Caen et 3, 16 points. Et ensuite, donc Ajaccio Restart 14 et Martigues 9 points. Et là aussi, il n'y a que 3 points d'écart entre le Restart 17e et Bastia 11 points. Donc c'est très serré. François, c'est bien qu'il y ait un deuxième club parisien qui arrive ?
C'est bien, oui. À partir du moment où il arrive quand même à monter en Ligue 1, ce qui n'est pas encore fait. Oui, ils sont bien partis, mais ce n'est pas encore fait. Bon, avec disons, de nouveaux investisseurs. Je pense qu'il pourra se pérenniser en Ligue 1, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas s'ils n'avaient pas ces soutiens importants. Oui. Mais il faut être quand même très prudent, parce que je me souviens du Madras Racing avec Lagardère.
Oui.
Ça n'avait pas fait long feu, alors que Lagardère était, disons, un milliardaire, investisseur. Et le seul petit problème, c'est peut-être que Lagardère n'avait pas, comme Arnaud, pris... Arnaud, je crois qu'ils ont pris Red Bull
pour l'expertise. Pour les accompagner dans le...
Ouais. Les accompagner. Et Lagardère, je pense que ce n'était pas le cas. Donc, voilà, optimiste pour ce deuxième club parisien en Ligue 1.
Et il y a eu une conférence de presse cette semaine qui a été faite sur Orly, qui a absolument donc définitivement entériné donc l'arrivée de ces nouveaux actionnaires. Alors en national, la 13e journée, on va rappeler que le Paris 13 Atletico, il y a une petite bouffée d'oxygène, ils ont battu au Bagne 1-0, défaite par contre de Versailles à Dijon 2-0, et puis Nancy, le leader qui va gagner à Châteauroux 2-0, donc Nancy toujours en tête avec 24 points devant Orléans, 2e 22, et 3e Dijon et Boulogne-sur-Mer 21 points. Versailles est là aussi dans le ventre mou avec Aubagne, Quevilly-Rouen et une autre équipe de Rouen, 15 points. Et puis 14e, donc le Paris 13, Atlético et Nîmes avec 13 points. 16e, Villefranche-en-Beauzelais, 10 points. Et 17e, Châteauroux, 8 points. Donc une petite bouffée quand même d'oxygène.
Mais c'est vraiment une victoire importante pour le Paris 13, Atlético.
Bien sûr.
Parce que là, ils jouent le maintien cette saison, évidemment. Et Versailles, qui joue les premiers rôles,
ils sont dans le ventre mou.
Mais c'est toujours bien s'ils arrivent à se maintenir dans tous les cas.
Voilà, puis on parle des féminines, il ne faut pas les oublier. On va rappeler que Lyon avait gagné son match donc, de Ligue des Champions devant l'AS Rome 4-1, après avoir gagné donc, le match aller 3-0. Comme elles avaient gagné auparavant devant Galatasaray 3-0 et Wolfsburg 2-0, eh ben, Lyon est largement en tête de sa poule avec 12 points devant Rome et puis Wolfsburg 6 points. Et donc le dernier, c'est Galatasaray avec 0 points. Et en championnat, ça continue pour ces... pour ces Lyonnaises, puisque les Lyonnaises se sont largement imposées au Havre 3-0. Victoire du PSG devant Dijon 6-1. Et puis Paris FC s'est imposé chez le voisin essonien à Fleury-Mérogis 4-1. Donc Lyon en tête avec 25 points. Devant le PSG, 2e 24. 3e le PFC 20. Et 4e Dijon 17 points. Voilà, c'est les 4 premiers qui pourraient faire le Final Four.
On se répète chaque semaine. C'est toujours les favoris qui gagnent. Donc... voilà.
Oui, François, le foot féminin qui a un petit peu de mal à décoller quand même.
Le foot féminin, il y avait une excellente enquête dans l'équipe justement sur la précarité des joueuses qui n'étaient pas internationales. Et bon, ça donne à réfléchir. Est-ce que Ligue 1 ou le championnat de première division peut être professionnel? C'est la grande question. Est-ce qu'on peut vivre de son sport en football lorsqu'on est, on appartient à des équipes qui ne sont pas dans le top 4? C'est la question que tout le monde se pose.
Bon, on a notre ami Stéphane Desenclos quand même au téléphone. Bonsoir Stéphane. Est-ce que c'était... Oui. On a fait le bilan des championnats. Ah bon, alors on a fait le bilan des championnats, s'il n'entend plus rien. Bon, écoute, je pense qu'on va... Est-ce que tu nous entends? Non? Bon, on va finir avec cette page foot pour revenir un petit peu sur les tirages au sort de Ligue des Nations, puisqu'on en parlait la semaine dernière. Croatie-France et Pays-Bas-Espagne, ce sont les deux c'est les deux premiers quarts de finale. Et il y aura Danemark-Portugal et Italie-Allemagne. Donc si la France bat la Croatie, elle jouera l'Espagne ou les Pays-Bas. Et puis le vainqueur de Danemark-Portugal rencontrera le vainqueur de Italie-Allemagne. Ça sera les 20 et 23 mars.
On s'en sort plutôt bien. Ça aurait pu être mieux forcément parce qu'il y a le Danemark qui tombe. Mais la Croatie qui est en fin de parcours, on s'en sort plutôt bien. Parce que quand on voit que l'Espagne va affronter les Pays-Bas et que l'Italie va affronter l'Allemagne, en plus on a un tableau qui est plutôt ouvert. On risque de re-rencontrer l'Espagne, il me semble.
Oui, en demi-finale. C'est ce qu'on a dit. Le vainqueur de Croatie-France joue le vainqueur de Pays-Bas-Espagne. Et dans l'autre tableau, le vainqueur de Danemark-Portugal jouera le vainqueur d'un alléchant Italie-Allemagne.
Voilà, en plus le match de la France contre l'Italie était un peu plus rassurant, si j'ose dire. Donc ça peut être... ça peut le faire pour l'équipe de France.
Voilà, et puis donc le retour des Coupes d'Europe cette semaine.
Retour des Coupes d'Europe, absolument. Oui. Donc on rappelle que le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich.
Oui, attention, le PSG n'a pas droit à l'erreur.
Et Harry Kane, justement, a fait en conférence de presse, a annoncé que c'était une très belle équipe du Paris Saint-Germain qu'ils allaient affronter, qu'il fallait presser le gardien de but. Donc voilà, est-ce que c'est... Est-ce que c'est un petit message subliminal pour, ouais. Pour les Parisiens?
Très bien. Ok, merci donc Alexandre. Désolé pour Stéphane qu'on ne pourra pas voir donc ce soir. François, la suite c'est quoi maintenant pour vous?
La suite?
Oui, alors, c'est le projet qui va aboutir?
Ben, on va essayer. Hein.
Oui.
On va essayer de pérenniser un peu tout ça. Mmh. Voilà, ça pourrait donner, disons, aux volontaires un nouvel éclairage.
Oui.
Parce que, encore une fois, les vrais bénévoles, ceux qui sont vraiment disons, remarquables et qui sont à féliciter, ce sont les bénévoles qu'on voit dans les prix du fair play. Ceux qui, chaque week-end, puis aussi en semaine, viennent entraîner les mômes, se déplacent et avec les difficultés qu'on connaît avec les parents qui ne sont pas toujours agréables. Nous, les volontaires à Olympique pour Paris 2024, bah, c'était quand même un peu la cerise sur le gâteau. C'était dans une ambiance très agréable, c'était très convivial, il n'y avait pas de conflit. Donc voilà, alors, on a eu énormément de chance.
Alors, je sais bien, c'est des questions de journalistes, s'il y a une image forte qui reste.
Bah, l'image forte...
Surtout cette quinzaine de vécus au cœur de l'événement, au cœur de, avec les sportifs, avec les supporters, avec
Moi, l'image forte, il y en a deux. Bon, l'image sportive, c'est les quatre titres de Léon Marchand. Bon, voilà, c'est incontournable. Ouais. Maintenant, d'autres images, c'est avec les supporters de tous les pays. Disons que, voilà, il n'y avait pas de rivalité, il y avait une ambiance extraordinaire, les gens se mélangeaient, prenaient en photo, faisaient des selfies entre eux. Donc, ça m'a redonné confiance dans le sport.
Oui.
Et surtout les sports paralympiques. C'est-à-dire, je n'ai plus du tout la même préhension. Lorsque je vois un handicapé, je ne le vois plus de la même façon. C'est-à-dire qu'avant, j'étais là, me plaindre, disant le pauvre. Mais maintenant, je me dis, mais c'est peut-être un champion. C'est peut-être un grand champion. C'est peut-être quelqu'un qui peut réussir des exploits dans des piscines ou sur des stades. Donc ma vision du handicap a complètement changé. Et de ce point de vue-là, je tiens à remercier quand même France Télévisions d'avoir consacré pratiquement la même couverture pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques. C'est un exploit parce qu'avant, c'était facile de les laisser un peu en fin de soirée, laisser une petite demi-heure de résumé et on n'aurait pas eu la même... Mais on s'est passionné pour ces Jeux paralympiques. Vraiment passionné, on regardait c'est de vrai. La même façon que les Jeux olympiques et on était content quand il y avait des médailles pour la France. C'était vraiment extraordinaire.
Très bien. François, merci. À très bientôt. Hein.
Bah, bientôt.
Il faut revenir quand vous voulez.
Bah, c'est très gentil à vous.
Aucun grand problème. Plaisir.
Voilà. Merci Vanessa. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Alexandre, je crois que tu restes avec au bout du foot. Hein.
Absolument.
Voilà, c'est bien. Eh ben, ça me permet de passer le témoin à Eladji et toute son équipe pour maintenant au bout du foot. Nous, on finit en musique. Merci à Léonard et rendez-vous donc la semaine prochaine. Salut.
Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là pour les sourires d'après. Si ce soir j'ai envie, casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Les amis qui s'en vont et les autres.
se fait entre des jeunes usés et des vieux qui espèrent. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salons qui veulent la couleur de l'amour, et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui, la peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit. J'ai envie de me casser.